Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler temps qui court, tous les soirs une conversation qui dure une heure ce soir avec Thomas Levillan.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du pota pépété pété.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui court.
Marie Richeux avec Thomas Levillan.
Ma pratique de la peinture tourne autour d'une esthétisation calme du réel. Un spectacle à échelle humaine, un matérialisme confiant, un premier degré souriant, une attention au tragique en tension, avec un appétit de peindre et une joie à représenter le trésor quotidien qu'est le monde des apparences. Mon réalisme bute sur une aporie, l'impression désagréable d'adopter le temps long dans une situation où tout relève du temps court. Je produis lentement et avec soin des objets sophistiqués conçus pour durer, alors que la projection dans un futur avec des conditions d'existence tenables me semble un défi. L'artisan que je suis, celui qui se heurte à l'économie de la vie matérielle au jour le jour, ne peut être que franchement terrorisé par l'idée de société basée sur une croissance infinie dans un monde matériel fini. Reste alors à trouver des pistes pour intégrer ce vertige à ma peinture, avec l'idée de serrer des gorges, ouvrir des cœurs et pourquoi pas, d'essayer des yeux. Voici un texte qui accompagnait votre travail artistique, Thomas Levillan, produit et montré à Rome, c'était cet été, dans une exposition qui réunissait les pensionnaires de la Villa Medici. Et on peut voir cette fois plusieurs pièces exposées à l'occasion d'un festival exposition Viva Villa. Cette fois, c'est en Avignon, à la collection Lambert, des artistes ayant séjourné à la Villa Kujiyama, à Kyoto, à la Casa de Velázquez, à Madrid et évidemment à la Villa Médicis, à Rome, montrent le fruit de leur résidence. Ce sera visible jusqu'au 10 novembre 2019 et le commissariat est signé Cécile Debray. Bonsoir à vous, Thomas Levillan.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Eh bien, puisqu'on parle de Rome, parlons de Rome.
Il y avait autrefois ce qu'on appelait le voyage d'Italie. Les peintres de tous les pays d'Europe, parce que l'Amérique était à peine découverte, eh bien, les peintres de tous les pays d'Europe allaient en Italie. Ils allaient à cheval, ils allaient à pied, ils allaient en diligence, mais enfin, ils y allaient. Pourquoi ? C'est parce que l'Italie était le berceau de la peinture et que dans chaque grande ville d'Italie, il y avait une école. Il y avait l'école de Sienne, il y avait l'école de Florence, il y avait l'école de Parme, il y avait l'école de Venise et il y avait l'école de Rome. Et Rome étant devenue la ville la plus importante de l'Italie, on avait même décidé de faire une petite installation française qui dure toujours, qui s'appelle la Villa Médicis, et dont les plus grands peintres français du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe ont été, en somme, les créateurs et les pensionnaires. Et puis, vous savez parfaitement que Nicolas Poussin a passé une grande partie de son existence à Rome, il envoyait ses tableaux à Paris, et Mignard est resté tellement longtemps qu'on l'appelait Mignard le Romain, et quant à Hubert Robert et Fragonard, ils sont vraiment les peintres au monde qui ont le mieux peint l'Italie. Quant à Corot, il n'est pas douteux qu'il a mieux peint l'Italie que n'importe quel paysagiste italien. Et puis, au XIXe siècle, ça a changé et on s'est mis à venir à Paris. Et les Français y restaient, bien entendu. Mais ce qui est drôle, je voulais parler de cette continuité. Degas raconte que quand il était jeune homme, il a été voir Ingres. Et alors, il était très intimidé. Ingres était un vieux monsieur, sénateur, commandeur de la Légion d'honneur, très impressionnant, monsieur Ingres. Il habitait quai Voltaire. Et Degas est arrivé de très bonne heure, et un peu trop tôt, et il a vu le maître, monsieur Ingres, qui montait l'escalier. Et alors, Degas s'est mis à marcher derrière lui, sur la pointe des pieds, et tout à coup, Ingres a manqué une marche, a failli tomber, et il est tombé en effet dans les bras de Degas, qui s'est mis à le serrer de tout son cœur. Et pendant toute sa vie, Degas disait, « J'ai serré dans mes bras Monsieur Ingres, j'ai tenu Ingres dans mes bras. » Jusqu'au jour où il a perdu la vue, il est devenu très aveugle, et un jour, en traversant la place Saint-Germain-des-Prés, il a failli glisser devant un omnibus, Et il serait peut-être passé dessous si une espèce de géant ne l'avait rattrapé par un bras, ne l'avait serré contre sa poitrine. C'était André Derain qui me disait bien souvent « Voyez-vous, j'ai tenu deux gars dans mes bras ». Comme continuité de la peinture française, il me semble qu'on ne peut pas trouver mieux. On ne demande pas à tous les peintres modernes de passer sous des autobus, mais quand même.
Quand même de se tomber dans les bras, pourquoi pas. 1958, conférence de Jean Oberlé. Je trouve que c'est vraiment une... Avant de vous demander, Thomas Lévillaine, dans quel bras vous êtes tombé ou peut-être qui vous a rattrapé dans vos bras, c'est une belle manière de penser la continuité des choses, notamment de comment on est avec l'histoire de l'art, immanquablement quand on débarque à la Villa Médici, à Rome. Qu'est-ce qui vous décide à avoir peut-être l'idée d'y passer un séjour?
Alors, c'était un peu spécial parce que j'étais au Canada, il faisait moins 30, j'étais au mois de février.
Vous aviez trop envie d'un peu de terrasse au soleil.
Et d'un coup, j'étais en résidence, et il y a une particularité des artistes, c'est qu'en résidence, on a tendance à postuler à d'autres résidences, parce qu'on a le temps. Et donc là, j'ai postulé à ce moment-là parce que j'étais justement en février, dans le milieu de la nuit. Et après, ça me paraissait, c'est un lieu hyper attirant, parce que c'est une résidence qui existe depuis 1666, c'est la plus vieille résidence au monde. Et passer un an dans ces conditions, c'était juste génial, quoi. Voilà. Donc, j'apprécie encore plus après une année qu'avant, que le désir que j'en avais, quoi.
Voilà. Ah oui, c'est-à-dire que le réel et la manière dont ça s'est réalisé étaient bien plus qu'à la hauteur de vos espérances.
Voilà. Donc, par exemple, une des choses qui m'a complètement ému dès le début, c'est que l'atelier que j'avais, c'était l'atelier que justement Ingres s'était fabriqué quand il était directeur. Et donc voilà, c'était très émouvant de se retrouver dans un atelier où il y avait eu d'autres gens qui étaient passés, il y avait Ming, il y a plein de peintres qui sont passés dans cet atelier avant, et donc c'était vraiment magnifique d'avoir ce lieu comme ça qui a pas bougé, et avec une vue sur Rome qui était magnifique, qui était la mienne pendant un an. Et sur l'aspect continuité aussi, ce qui est très beau, c'est que c'est un lieu très qui a pas beaucoup bougé. Et par exemple, la première chose qui m'a choqué en arrivant, c'est qu'il y a un jardin historique donc qui est très stable. Et en fait, le jeune Velázquez a été conseillé par Rubens d'aller à Rome si vous voulez être peintre. Et Velázquez à Rome a peint deux endroits de la Villa Médicis qui n'ont absolument pas bougé, quoi. Voilà. Et donc c'était très émouvant, presque 400 ans après, de retrouver ces endroits, de retrouver le lieu où le corps de Velázquez était, quoi. Voilà.
Parce que ça signifie qu'il y a à la fois des choses extrêmement tangibles de la manière dont le temps passe et dont les choses se transmettent. Et puis il y a quand même à vous écouter, Thomas Lévillaine, et vous n'êtes pas le premier à tenir ces propos-là, quelque chose de plus invisible, quelque chose de plus intériorisé, qui relève du savoir, de l'histoire de la peinture et de l'histoire de l'art, qui relève peut-être des fantômes si on y croit, enfin quelque chose qui plane dans cet endroit, qui fait que quand bien même on n'avancerait jamais seul, jamais vierge, on avance encore plus chargé là-bas dans son travail.
Oui, et puis c'est aussi un lieu de confiance, parce que on est chouchou. On est chouchou de l'État, on a été sélectionné et tout ça, et donc d'un coup, alors il y a des gens qui se sentent pas légitimes. Moi, je trouve que ça donne beaucoup beaucoup d'énergie.
Oui, il y en a que ça éteint complètement.
Voilà, mais pas tant que ça cette année, mais c'est surtout que ça donne beaucoup beaucoup d'énergie, parce que aussi on a une chance énorme par rapport dans une carrière d'artiste, c'est qu'on a 350 jours vides, c'est-à-dire sans problème, sans histoire de quotidien, sans histoire d'argent, sans histoire, voilà. Et donc c'est une chance formidable, ça, d'avoir cet espace de temps dans un cadre magnifique. C'est presque sensuel, quoi.
Et ça ressemblait à quoi, ces journées-là, justement, pour ce que vous voulez bien nous en dire?
Je suis un peu un enfant, donc j'ai vu la machine de la villa, et c'était un peu compliqué parce que comme c'est une machine institutionnelle aussi, on pouvait y faire plein de choses, et donc je me suis plongé.
Vous êtes inscrit à tous les ateliers possibles.
Exactement.
Activités scolaires et hors scolaires.
J'ai fait le tour de Rome d'abord, et puis j'ai vu que c'était tellement énorme qu'il y a 900 églises, que bon, j'ai dit bon, bah voilà, ça, peut-être je le ferai une autre fois, parce que c'est beaucoup trop riche, c'est merveilleux, hein, mais c'est beaucoup trop riche. Et la villa, c'était que pour une année, donc je me suis recentré sur la villa. Et une des choses que j'ai beaucoup aimé faire, c'était d'organiser des conférences ou des choses comme ça. Et donc, j'ai fait deux choses. J'ai organisé une conférence sur les peintres, parce que ça m'intéressait d'incarner ce qui me paraissait pas incarné nulle part. C'est-à-dire, j'ai fait en deux heures une espèce de speed dating où je présentais 125 peintres français vivants, de la scène française vivants. Voilà, et donc ça, j'en ai fait un film que je l'ai mis sur la chaîne YouTube de la Villa, qui s'appelle La Vitalité de la Peinture, voilà, sur la scène française. Et puis on a organisé à 9 pensionnaires un espèce de symposium sur l'anthropocène, hein, qui s'appelle Reconstruire le regard, où là on a invité 10 personnalités vraiment très différentes pour parler ensemble des histoires de réchauffement climatique et tout ça. C'était un peu une thématique un peu étrange dans l'année, parce que il y a des arbres qui sont tombés, mais peut-être on en reparlera.
On y viendra, ouais.
Et donc j'ai fait tout ça plus de la peinture, parce que une des choses que dont j'étais très heureux, c'est d'avoir le temps de rater. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des mauvais tableaux, des mauvais petits trucs, des petits essais, d'avoir l'occasion de rater, parce que dans mon parcours, c'est pas si évident d'avoir le temps de comme ça de bricoler dans tous les sens, de faire des essais.
Parce que quoi, parce qu'on vous attend,
il faut gagner de l'argent, voilà, faut faire des expos. Comme moi je suis très lent, bah ça prend tout de suite beaucoup de temps. Et donc ça, c'était génial. J'ai par exemple découvert mes pinceaux. Ça fait 20 ans que je fais de la peinture, je ne savais pas quelle marque de pinceau il fallait prendre. Et puis là, j'ai fait des tests, j'ai essayé dans tous les sens. Et puis j'ai fait un espèce de casting mondial, j'ai acheté plein de pinceaux partout dans le monde. Et puis j'ai trouvé les pinceaux qui m'allaient, donc c'était super. C'est un petit détail, mais voilà. Et puis après, j'ai produit...
C'est un gros détail quand même quand on peint.
Et puis dans les 6 derniers mois, j'ai fait que peindre, voilà.
C'est peut-être intéressant qu'on revienne sur la question de la vitalité de la peinture, que ce soit à travers cette conférence que vous avez organisée là-bas, Thomas Levillane, ou de manière générale, ce que vous produisez, la parole que vous tenez sur ce que vous produisez et votre propre regard sur ce qui se peint en ce moment. Moi, j'ai un souvenir, peut-être qu'il est faux, hein, mais d'avoir vu passer un visuel avec plein de peintures mis côte à côte, au moment de cette conférence-là, et qu'en effet, il y avait quelque chose de très vitaliste, de très plein d'énergie, qui disait ça peint en ce moment, ça peint dans tous les sens, ça peint de plein de manières, comme si c'était un regard empli de joie, pas uniquement à l'égard de ce que vous êtes en train de faire, mais aussi de ce qui se produit autour.
Bah oui, parce que en fait, comme beaucoup de peintres de ma génération, à l'école des Beaux-Arts, on nous a dit qu'il fallait pas peindre. et donc c'était une vraie joie 10 ans après de voir que beaucoup de gens peignaient et peignaient très très bien. C'est-à-dire que moi je voyage pas mal et je trouve que le niveau est vraiment, il y a au moins 30 bons, très bons artistes français aujourd'hui. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et là pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de relais institutionnel, qu'il y a une espèce de la doxa contre la peinture est encore assez grande. Et donc mine de rien, les gens, moi je vois mes amis, ils sont fatigués, quoi. Ils ont des cernes, alors ils gagnent leur vie et tout ça, mais c'est pas la grande expansion, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, voilà, parce que je pense que c'est une énergie très grande qui risque de s'épuiser au bout d'un moment. C'est-à-dire, en gros, on va pas se bagarrer toute notre vie. Enfin, moi, je suis prêt, hein. mais c'est compliqué. Et puis, quand on voit des succès comme, par exemple, le musée Soulages à Rodez, peut-être c'est intéressant de se dire, en fait, un peintre, ça peut créer une économie, ça peut créer une énergie autour d'une région. Donc oui, peut-être que ça serait pas mal de travailler un peu ces questions. Surtout qu'encore une fois, je pense que là, par exemple, la génération suivante, c'est-à-dire les gens de 25 ans que je vois complètement décontractés de la peinture, il y en a énormément. Ils sont super bons et super vivants. Ils ont aucun complexe comme nous et ça me désespère. Enfin, non, mais c'est vraiment très chouette de voir ça, quoi. C'est-à-dire de voir une vitalité comme ça très grande.
C'est peut-être grâce à vous. On parlait des gens qui se tombent dans les bras les uns des autres et qui peut-être
se... Il y a des contacts, oui.
Ouais, voilà, oui, bien sûr, il y a des contacts, choses qui s'induisent.
Tout ça
aussi.
Est très, très vivant. Après, je pense que ça manque encore d'énergie, d'espace. Donc là, par exemple, cette vidéo que j'ai faite sur la vitalité de la peinture, mon espoir, c'était de toucher... Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais c'était de toucher des gens qui vont voir des expos anciennes, genre Monet, au Grand Palais et tout ça, et qui, pourtant, ne s'intéressent pas à ce qui se passe de vivant, de contemporain. Or, vraiment, il y a de quoi faire, quoi. Des choses accessibles, il y en a pour tout le monde, quoi. Voilà.
Qui sont tous ces gens que vous avez regardés, ces 30 meilleurs dans votre bouche ou les autres, Thomas Levillane, et qui ont à un moment donné de leur parcours et de leur formation ou de leur élan artistique déjoué ce que vous appelez la doxa anti-peinture, car en effet elle était quand même très forte dans les écoles d'art et de formation artistique ces dernières années. Vous avez l'impression que c'est des gens qui ont quoi, qui avaient la peinture chevillée au cœur et au corps et qui ont traversé ça? Ou simplement que t'es des outsiders sur qui la doxa passait allègrement? Je reprends votre mot là, doxa.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est des gens qui aiment la peinture. C'est-à-dire, on va au Louvre, on a un énorme plaisir. Il y a un vrai rapport à ça. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de jouer à ce jeu-là, quoi? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir cette décontraction de. Donc, par exemple, j'ai organisé. C'est un truc qui m'a beaucoup choqué quand j'ai organisé un colloque au Collège de France qui s'appelait La Fabrique de la peinture, où on invitait des Français et des étrangers, des étrangers très connus, des Français un peu moins connus, à parler de leur peinture. Et les Français se justifiaient tout le temps, quoi. Parce que comme si c'était interdit, comme si voilà. Et je pense que oui, en fait, on aurait très bien, on aurait mieux vécu si c'était pas interdit, quoi. Voilà. Mais je pense que oui, c'était quelque chose de l'ordre de j'ai envie de jouer Rembrandt, j'ai envie de jouer Titien, j'ai envie de jouer les modernes. Enfin voilà, c'est un jeu qui, parce que c'est un statut, c'est une situation aussi, on va dire. Enfin, c'est un vrai plaisir quotidien de faire de la peinture. C'est-à-dire, on est au calme, personne ne vous embête, on tripatouille sa matière toute la journée. On écoute la radio. C'est un métier vraiment spécifique, quoi.
Bah écoutez, c'est fou que vous disiez cela parce que quand on écoutait les archives pour préparer l'émission, on était frappés. On l'entendra, j'espère, dans ce qu'on va entendre, par la vitalité, la joie, la sensualité de la parole qui est portée par les personnes et les archives qu'on a choisies. Mais on va entendre la vitalité, la joie de Romain de Bec-de-Liège qui va lire un extrait d'Aurélien Bélanger. Texte d'Aurélien Bélanger.
J'étais à la Villa Médicis ce jour de février 2019, où une tempête a déraciné deux des grands arbres de son parc. Des arbres tenus, depuis Ingres et Corot, à leur essence picturale. Des arbres comme des idées en peinture. Des photographies rapprochées de tableaux. Des impacts visuels. Des taches dans les yeux. Des arbres accrochés à l'éternité dévalante de l'histoire de l'art et du sentiment de la beauté. Je faisais la sieste, au milieu du vent, dans l'aile, quand la catastrophe s'est produite. Et découvrant le paysage ravagé, au réveil, j'ai éprouvé une réelle satisfaction. La satisfaction d'une prédiction accomplie, d'une fin du monde fidèle aux prophéties. J'avais en effet demandé la veille pour quelle raison des grandes bandes de caoutchouc reliaient les branches des pins à leur tronc. Et j'avais appris que c'était pour les retenir, au cas où elles cassaient, car elles cassaient d'un coup. Le spectacle de ces branches suspendues au vide avait ainsi quelque chose de naturel, d'inscrit dans la vie normale du végétal médicéen. Le pin parasol s'était parfaitement replié en suivant les lignes de fuite attendues du paysage romain. La fin du monde, en général, n'est pas étrangère à ce monde. Elle en suit la ligne de moindre pente. Telle qu'on a appris à la concevoir, à la rationaliser, c'est plus une paresse qu'une apocalypse. Un taux de CO2 maintenu trop élevé, un sous-marin qui tente d'équilibrer, dans l'océan salé, ordre de fin du monde et cohérence acquise de la théorie des jeux, une bande de caoutchouc noir tissée entre les branches. La fin du monde, l'idée d'Anthropocène ne dit pas autre chose, est un âge de la Terre, une propriété paisible de l'espèce, un type de paysage. Celui qui nous inclut précisément en lui, qui vient nous déraciner de toute innocence, ce monde que nous regardions, nous étions déjà, un peu trop avancés, en train de le détruire. Le pas de trop du promeneur du tableau de Friedrich, pas forcément le sien, celui du paysage, qui s'avance vers lui, le reprend en sous-œuvre. La fin du monde, un simple changement d'enveloppe physique de la Terre.
C'est un texte d'Aurélien Bélanger qui figure dans le catalogue La fin des forêts, l'exposition qu'on peut voir en ce moment à la collection Lombard. C'est une camaraderie de longue date, une fréquentation de longue date, les textes d'Aurélien Bélanger et votre travail artistique, Thomas Lévillane. En fait, au départ, je me suis dit, oups, maladresse d'introduire joie et vitalité pour parler de ce texte-là. Et en fait, non, pas maladresse, parce qu'il y a vraiment quelque chose dans la joie qu'avoue Aurélien Bélanger à voir tomber ces grands arbres du jardin de la Villa Médicis, quelque chose de la chose qui se réalise, quoi. La joie de la chose qui se réalise. Et puis, il parle de cette fin du monde qui a à voir aussi avec ce titre choisi, La fin des forêts, et qui fait référence à ce qu'on peut voir de votre travail, Thomas Lévinal. Qu'est-ce qui se termine dans les travaux que vous montrez en ce moment à la collection Lombard? Qu'est-ce qui prend fin?
C'est justement ce que dit Aurélien sur les tableaux de Friedrich, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand le Wanderer met un pas de plus, c'est-à-dire qu'il va que le paysage qu'il est en train de contempler va l'abîmer, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Sacrément l'abîmer même.
Oui. Non, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'il est quand même au-dessus du vide.
Ouais, oui. Ouais. Et donc là, j'essayais de peindre des cadres, des paysages dans lesquels les personnages qui sont en train de regarder le paysage ne voient pas, et nous on le voit, qu'ils sont voués à disparaître à cause de leur rapport à ce paysage-là. Donc c'est par exemple des touristes devant des arbres, à qui on explique les arbres, qui sont très passifs, qui ont un rapport très muséal à leur environnement, qui sont des rapports de consommateurs à leur environnement.
Pour les deux exemples peut-être auxquels vous pensez, la bambouserie d'Anduze, voilà, où on voit une sorte de touriste de l'été, hein, au milieu des immenses bambous de cet endroit quand même assez incroyable, et un homme en doudoune
dans un biodôme,
une espèce d'immense serre. Voilà, quoi.
Donc là, par exemple, le biodôme, c'est à Montréal, c'est un lieu qui est censé être très écologique, où ils ont reconstitué tout un biotope d'une jungle, et il y a des systèmes de protection pour pas rentrer dans la jungle, évidemment. Il y a un petit plot jaune pour dire qu'il faut pas glisser. Et le monsieur regarde pas la nature, mais regarde le truc qui lui explique la nature, enfin la nature, l'environnement. Et il est en doudoune parce qu'en fait dehors il fait moins 30, quoi. Et donc évidemment c'était une espèce de cauchemar de ce que ça pouvait être le futur, une espèce de sauvagerie comme ça reconstituée, muséale, voilà. Et c'est vrai que ça si on parle de joie et de plaisir, c'est une des choses qui moi m'a beaucoup marqué cette année, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur la question du réchauffement climatique et tout ça. C'est une question que j'avais vraiment en tête depuis très très longtemps. Notamment parce que je pense que ça a beaucoup à voir avec notre rapport au réel, c'est-à-dire que j'ai beaucoup peint le rapport à la technologie, le fait de fuir le réel et s'intéresser plutôt à l'ailleurs qu'à l'ici et maintenant. J'ai beaucoup travaillé sur un philosophe qui s'appelle Clément Rosset, qui est un philosophe qui travaille vraiment sur son rapport au réel. Et là, j'arrive à un moment un peu de crise, on va dire, parce que je vais avoir 40 ans et en fait, c'est assez étrange, mais je voulais pas le voir ou je voulais pas le sentir, mais en travaillant beaucoup beaucoup la question cette année, en lisant beaucoup de livres, et maintenant j'y crois. Je voulais pas croire à ce que je savais et maintenant j'y crois, c'est-à-dire j'y crois au sens dans mon corps que toutes ces histoires là c'est vrai.
Donc vous êtes dévasté alors?
Un peu, ouais. Mais bon, c'est la question, c'est de quoi en faire après. Mais c'était intéressant justement du plus bel endroit du monde de travailler sur la fin du monde, parce que ça donne plus d'énergie. Et par exemple, quand vous avez lu le texte, j'ai failli pleurer. Parce que c'est... Enfin, j'y crois vraiment. C'est-à-dire, c'est pas... ça gâche un peu mes rapports avec mon amoureuse parce que je la saoule avec ça. Ça change ma manière de vivre. J'essaye d'arrêter la viande alors que je suis un viandard pas possible et que je rêve de lardons maintenant. Et donc, ça, je suis vraiment passé de l'autre côté, quoi. Alors, et après, la question, c'est...
Comment ça se traduit picturalement pour vous, quand même? Une des questions.
Alors, d'abord, est-ce qu'il faut faire de la peinture? Ça reste une question. Est-ce qu'il faut pas devenir... Si on prend au sérieux, par exemple, j'ai fait un montage de Valérie Masson-Delmotte, la vice-présidente du GIEC au Sénat, qui explique qu'il y a 10 ans pour un peu changer les choses. Donc, est-ce qu'il ne faut pas devenir militant pendant 10 ans?
Elle disait, je vous parlais d'urgence il y a 10 ans, c'est plus le moment en fait. Là, je ne peux plus vous parler d'urgence, par exemple.
Ouais.
C'est dépassé.
Voilà. Et elle dit qu'il faut du courage. Voilà. Il ne faut pas de l'espérance. Il faut du courage. Et ça, c'est une chose que je peux entendre très bien par rapport à l'écologie. Moi, je pense même pas que c'est de l'écologie, c'est de la survie, survie au sens d'une société, hein, pas de la vie ou de la mort. C'est-à-dire, je suis pas collapsologue, mais je pense que par contre, pour garder une qualité de vie un peu qu'on a connue dans les années 70, on va dire, il faut s'y mettre vraiment très rapidement.
Et alors, à la question, faut-il encore faire de la peinture?
Et ça, c'était une vraie question que je me suis posée. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que d'une part, je pense que je suis pas un très bon politique. C'est-à-dire que si j'avais fait de la politique, je serais devenu dictateur et puis ce serait pas...
Donc c'est cool pour nous.
Voilà. Je pense qu'il serait pas arrivé en plus. Mais j'ai pas le... par exemple, et par contre, je me suis rendu compte, parce que j'avais beaucoup d'étudiants ou des choses comme ça qui m'écrivaient parce qu'ils avaient vu que j'étais intéressé par ça, qui m'ont écrit en me disant, mais alors pourquoi il faut faire des choses aujourd'hui? Pourquoi on continue à avancer, quoi? Et en fait, cette question-là, on peut se la poser tout le temps. C'est la question du tragique. C'est-à-dire, pourquoi on fait quelque chose alors qu'on va mourir? Et donc, c'est toujours la même question. Sauf que la question, maintenant, et qui me paraît vraiment intéressante, c'est d'intégrer justement encore plus de tragique, c'est-à-dire encore plus de sens encore plus de sens du réel, parce que pour moi, le réel est tragique, dans nos vies, quoi. Donc là, par exemple, je reviens de Tchernobyl, où je suis passé 2 jours avec un ancien pensionnaire de la villa, François Hébert, et réalisateur. Et ce qui était fascinant, c'était qu'on était dans une ville qui s'appelle Pripyat, qui est une ville abandonnée, parce qu'ils ont vidé, absolument toute la ville. Donc c'était, je crois, 40 000 habitants au bout de 30 heures. Et donc la ville est restée comme ça, un peu comme en Pompéi et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui m'a le plus choqué? C'était des peintures complètement idéologique, la vue de l'espace, des cosmonautes partout, des femmes cosmonautes, aussi, d'ailleurs ça m'a beaucoup marqué, enfin plein de trucs sur le progrès, d'idées de progrès comme ça au milieu des décombres quoi. Voilà. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est la question de notre rapport au progressisme, de notre rapport à la croissance qu'il va falloir calmer. Alors ça c'est une vraie question parce que ça c'est peut-être ce truc qui me fait le plus peur parce que vraiment tout est organisé dans une vision de la croissance et c'est pas que je suis décroissant parce que moi ça m'arrange pas la décroissance parce que j'aurai moins de collectionneurs. L'art, c'est un surplus, c'est un luxe, quoi. Donc, s'il y a moins de luxe, c'est pas une bonne nouvelle pour moi.
Il se produit, en tout cas, vous concernant, au prix d'une forme de lenteur, d'un calme, d'une solitude, d'un retrait, c'est-à-dire pas exactement les valeurs dont a besoin ou des mouvements dont ont besoin des mondes qui se basent sur la consommation la plus rapide possible des biens qui sont en train de dépérir le plus rapidement possible.
Alors, je vais pas vous mentir, ça m'arrange grandement aussi, parce que la peinture, il n'y a pas besoin d'électricité. Enfin, il n'y a pas besoin de tout un ménage. C'est pas de l'art contemporain industriel. Et j'étais déjà dans cette optique-là du calme et de la sérénité. Mais je pense que c'est plus vivable, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi une question que... Enfin, moi, je pense que ça peut être aussi une très, très bonne nouvelle, vu la situation d'absolument crise de partout. Enfin, je veux dire, on voit des flics se battre avec des pompiers. Il y a quand même un truc qui ne va pas du tout, quoi. Les métiers les plus importants, les métiers régaliens les plus importants, ils sont sous-payés. Enfin voilà, il y a un truc, on traite mal tout ce qui prend soin de la société, donc peut-être qu'il faut peut-être un peu changer les choses. Alors moi le problème que j'ai, c'est que j'ai tendance à être conservateur, c'est-à-dire que je pense que ça veut pas dire si on change les choses, ça veut pas dire que c'est une bonne nouvelle non plus. Donc je suis très prudent sur ces, je suis pas un excité quoi, mais oui on va, enfin voilà. Et un des trucs qui m'a intéressé aussi, que je me suis rendu compte ça pour le coup pour ma peinture, ça m'a beaucoup travaillé, c'était le fait qu'on passait d'un état très individuel, très auto-centré. On a appris, je sais pas, je suis né en 80, moi c'était Just Do It, Nike, tout ça. Et on passe moi j'ai l'impression de passer un moment où je dis nous en termes d'espèce, quoi. C'est-à-dire qu'on est une espèce.
On n'est pas très nombreux, pas très nombreux à produire ce genre de discours.
Bien sûr, mais
le discours Just Do It et fais-le si tu es capable, va le plus loin possible, il a encore bien
d'avenir
devant lui.
Je pense que j'ai une très grande chance parce que j'ai beaucoup de temps. C'est-à-dire que on peut parler d'avant-garde, c'est que moi j'ai eu beaucoup de temps à y réfléchir, j'ai eu beaucoup de temps à écouter des choses là-dessus, j'ai eu beaucoup de temps à suivre des gens là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles avec François Hubert, encore une fois, on a filmé tout ce qu'on a fait et qu'on l'a mis en ligne sur la Villa Médicis. C'est un peu service public, puisqu'on était payé dans des bonnes conditions pour faire ces genres de choses. On voulait que ça soit partagé ou non. Enfin, voilà. Mais en gros, que les gens puissent avoir accès, quoi qu'il arrive, à ce qui s'est produit là-bas. Parce que oui, c'est une responsabilité, en fait. Voilà. Et après, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, il y a aussi dans cette recherche-là, il y a aussi beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Parce que par exemple, c'est encore une fois ce goût du réel. Moi, il a changé complètement. Ça a changé complètement ma manière de voir le monde. Donc, je donne un exemple qui est un peu prosaïque, mais que j'aime beaucoup. C'est Marilyn Monroe qui est sur une plaque de métro dans ces temps de réflexion. On peut le voir comme un film hollywoodien des années 50. On peut le voir comme évidemment l'objectivation de la femme, et on peut le voir aussi comme une douche de microparticules de plastique qu'elle se prend, quoi. Voilà. Et d'un coup, moi, je vois que ça. Et ça, c'est quand même un truc qui est vachement intéressant parce que ça enrichit le regard, quoi. Ça enrichit le regard de voir, je sais pas, je pense à Gilles Clément et le tiers paysage. Ça enrichit le regard de se balader dans Paris et de voir les petites plantes partout comme ça. C'est aussi une source de joie d'être plus précis sur. Encore une fois, j'ai appris la radioactivité avec Tchernobyl. Moi, c'est une source de joie de me dire que oui, j'ai appris que j'ai pris plus de radioactivité en prenant l'avion 9 microsieverts que en passant 2 jours à Tchernobyl 7 microsieverts, quoi.
Mais parce que souvent, le savoir est une source de joie, Thomas.
Oui, bien sûr. Non, bien sûr, alors il y a des savoirs. Un savoir
de destruction, en fait, peut être une source de joie.
Généralement, quand c'est détruit, c'est comme la fin d'une histoire. C'est plus facile à raconter l'histoire quand c'est fini, quoi.
Goût du réel, Clément Rosset. On l'écoute en 1980.
Toute chose, et en particulier toute bonne chose, une jolie femme, par exemple, un parfum merveilleux, une couleur de coucher de soleil, m'inspire toujours une espèce de... Enfin, est faite pour inspirer à quiconque, pas seulement à moi, je pense. Quelque chose d'un petit peu... je ne dirais pas angoissant, mais en tout cas un peu angoissant tout de même. non pas une ombre de tristesse dans le plaisir que procure la bonne chose, mais une espèce de d'étonnement qui confie un petit peu à l'angoisse et que je vais vous expliquer. Ce n'est pas du tout le sentiment que la chose, cette bonne chose étant unique, est éphémère. Cette angoisse ou cet étonnement angoissé n'est pas le sentiment que la chose éphémère n'existera plus à double exemple. Je veux dire, on la retrouvera jamais, il faut en profiter de suite. Et puis, enfin, cette ombre de mort qui auréole toute chose, comme autour de la tête de Marcellus dans Virgile, ce n'est pas cela du tout que je veux dire, mais quelque chose d'autre. C'est que la chose bonne est impensable. Insituable, irreprésentable, précisément dans la mesure, non pas où elle est bonne, parce que ça serait de la même chose pour des choses mauvaises, mais c'est très intéressant dans le cas des choses bonnes, précisément parce que cette chose est unique. Et étant privée de repères pour la situer parmi les autres choses, si vous voulez, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une sorte de vision exactement anti-hegelienne. Hegel situe toute chose et voit toute chose par ses références au tout dont elle fait partie. Et quant à moi, je dis exactement le contraire, c'est-à-dire que la chose, le concret justement, pour parler encore un langage hegelien, le concret de la chose est son unicité et son manque de rapport avec les autres choses, sa solitude, son caractère unique de son espèce, et qui fait que finalement, la chose bonne, dans tous les sens du terme, ou quelle que soit la nature de cette bonté de la chose, est impensable. Alors on goûte la bonne chose, on déguste la vie sans la comprendre, en quelque manière, si vous voulez. Et ceci me paraît encore beaucoup plus angoissant, mais encore beaucoup plus intéressant philosophiquement que le simple thème, très profond aussi, bien sûr, et très triste, alors lui, du caractère périssable et éphémère de toute chose. Alors, ça a été le cas pour le camembert. J'ai choisi l'exemple du camembert parce que je me suis toujours dit, et chaque fois que je mange à mon camembert, ça n'arrive plus très fréquemment, comme vous le savez, hein, ça fait des années qu'on n'a plus de bons camemberts. Eh bien, chaque fois, cette espèce d'extase que j'ai, et que j'ai d'ailleurs devant mille autres choses, se double d'une espèce de... non pas d'une tristesse, mais comment décrire cela? Comment dire... Comment pourrais-je faire pour prendre la parole et dire, expliquer à un Esquimau, expliquer à quiconque? Je vais vous dire le goût du camembert. C'est impossible. Précisément parce que il est distinct de tout, il est incomparable. C'est pas du tout le Brie, c'est pas du tout le Livaro. Et cette chose, comment la dire? Eh bien, rien qu'en disant, par cette tautologie qui renvoie la chose unique à son unicité, que c'est du camembert.
Temps qui court, Marie Richeux avec Thomas Lévillane. À quoi bon s'en empêcher? À quoi bon s'en empêcher?
Juste avant la voix de Bonnie Banane, c'était celle du philosophe Clément Rosset en 1980. Thomas Lévillaine, vous disiez votre goût pour la production de ce grand philosophe, de cet écrivain, de cet homme-là. 1980, je sais pas, quand même, c'est assez fou ce qu'il dit. Toute bonne chose inspire quelque chose d'angoissant. Je m'approche d'une bonne chose. Alors il dit une belle femme, une couleur de coucher de soleil, etc. Et ça vient avec un étonnement qui confine à l'angoisse, et son raisonnement se termine par comment je vais bien pouvoir le dire, comment je vais bien pouvoir dire cette bonne chose. Et une partie de votre peinture, Thomas Lévillaine, alors là je parle pas nécessairement de ce qui est montré en ce moment à la collection Lambert, mais peut-être de travaux un peu précédents, me semble procéder de ce tremblement là c'est j'assiste quelque chose du réel, je ponctionne, j'y travaille, et je rends l'inquiétude de comment pouvoir le dire.
Oui, ben alors ça c'est un aspect de la peinture que je trouve très intéressant, c'est son côté performatif, c'est-à-dire que je prends beaucoup de temps à peindre des choses très banales.
Et donc d'un coup, dit très banal.
Qu'on dit très banal, mais ça peut être des feuilles, ça peut être une bouteille de coca, ça peut être des cendriers, voilà, enfin des choses de tous les jours quoi. Je cherche pas l'événement parce que en fait ce qui m'intéresse c'est le non-événement. C'est-à-dire le monde. Qu'est-ce qui se passe quand le jour, le ici, maintenant? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des fils électriques partout dans le studio où on est?
Et comment qu'est-ce qui se passe sur quel plan? Qu'est-ce qui se passe sur le plan du regard?
Être surpris que ça existe, quoi.
Ah oui. Donc existentiel.
Pas existentiel parce que il y a quelque chose plutôt que rien. C'est complètement fou. Ça, c'est une phrase de Wittgenstein que j'aime bien, qui dit que le miracle esthétiquement parlant, c'est qu'il y a un monde, que ce qui est soi. Et voilà, ça me suffit comme comme étonnement.
Et depuis toujours?
Je pense depuis toujours, mais que j'ai mis du temps à le. Et je pense que c'est d'ailleurs assez lié à ces histoires de catastrophes, encore une fois, puisque moi je pense être sensible à ces histoires de catastrophes parce que de manière intime j'ai vécu un effondrement familial qui fait que d'un coup je me suis rendu compte que le monde pouvait être différent que la structure toute sympa qu'on m'avait donnée au départ. Quand on est enfant, on prend le donné comme ça, comme une chose normale, et d'un coup j'ai vu tout s'effondrer. Et je pense que ça rend plus sensible au fait que tout est fragile, que tout est instable, que rien n'est donné. Et donc, évidemment, le donné du monde, c'est-à-dire le réel, la matière, la matérialité, tout ça, c'est une chose à laquelle je me suis beaucoup accroché très vite.
Et devient quoi? Cadeau? Devient quelque chose à regarder, à célébrer par la peinture?
Quelque chose qui nourrit quoi qu'il arrive tous les jours. C'est-à-dire que moi, je suis angoissé, je regarde le monde, ça va mieux.
C'est-à-dire, quel que soit le bout de la lorgnette par lequel vous prenez, quoi.
Ouais, je
tout
pense,
le monde, tout ouais. L'existant.
Ouais, je pense que tout est beau.
Ouais. Ouais.
Voilà.
Guerre et massacre compris.
Cruauté comprise, voilà. On prend tout le package.
C'est là, de toute façon.
C'est là, on peut, voilà. Faut lâcher, il faut pas, faut lâcher. Je dis faut, c'est bien de lâcher. C'est pas mal de lâcher. Et de savoir, vivre la chose sans crispation idéologique sans projeter des idées dessus quoi.
Se laisser. Donc ça veut dire que vos peintures, une fois qu'elles sont montrées ou dans votre atelier quand elles existent, ce calme dont parlait votre texte que je lisais en introduction, Thomas Lévillaine, procède du fait qu'elles n'ont plus d'idées en elles.
Oui, c'est une chose que je cherche, ouais, de retrouver cette espèce de frontalité du réel qui fait que ça c'est une phrase de Georges Braque que j'aime bien, qui dit qu'un tableau est fini quand il n'y a plus d'idées dedans. Mais j'essaie de retrouver comme ça une frontalité. C'est un truc qui m'intéresse vraiment. Je sais pas si j'y arrive, hein, mais de trouver des tableaux comme ça qui nous laissent ce petit temps de quand on est saisi par un tableau ou un micro temps, c'est fulgurant. Mais c'est ça qui m'intéresse parce que c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que l'expérience du réel. C'est-à-dire, je sais pas, vous baladez dans la rue, vous voyez un rat mort. Le moment où vous êtes saisi, c'est un moment de peinture. Vous voyez une jolie fille qui se déshabille devant vous. On est saisi par un truc, c'est incroyable. D'un coup, c'est comme un trou dans le réel vous prend, quoi. Et ça, c'est quelque chose, ouais, qui me parle beaucoup.
Mais c'est un chemin un peu, je vais essayer d'être clair dans ma pensée. C'est un chemin un peu long et compliqué pour retrouver ce surgissement parce que, Vous, il y a beaucoup de compositions, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de temps pour que ces tableaux-là arrivent. Mmh. Et pour qu'ils obtiennent cette même immédiateté, ce même non négociable qu'on appelle le réel et qui est cette femme qui se déshabille ou se ramort sur le trottoir. Ça n'a pas été créé, quoi, quand on croit pas en Dieu, en tout cas. Ouais. C'est pas créé. Il y a personne qui a bossé dur pour qu'il y ait un ramort et ou une jeune femme qui se déshabille devant vous, mmh. alors que vous, vous avez bossé dur pour que ce surgissement-là, il ait la même qualité du réel.
Alors, j'ai bossé plaisir. J'ai bossé plaisir, parce que c'est quand même du plaisir d'étaler de la peinture.
Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu plein d'étapes, quand même.
Oui, mais c'est...
Plein d'interventions de votre part.
On va dire que c'est comme... Alors, des fois, j'aimerais bien que ça se voit moins que il y a du travail. J'aimerais bien que ça soit plus léger, ma peinture. Mais c'est comme un magicien. C'est-à-dire qu'un magicien, il bosse dur avant que ça fasse un effet de réel incroyable et qu'on fait « waouh ». Et donc, oui. Mais encore une fois, moi, c'est peut-être aussi une manière d'essayer de décortiquer le monde des apparences que de... Par exemple, quand on fait de la peinture, on se pose des questions, genre, comment c'est fait le tronc d'un arbre? Et puis d'un coup, c'est qu'est-ce que c'est que l'écorce? Et puis d'un coup, c'est quoi ce jeu d'écorce, d'ombre, de machin? Mais qu'est-ce que c'est que cet humus-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc vert? Jusqu'où je vais? Et ça, c'est des questions qui, moi, me nourrissent mon regard et ma vie. Parce qu'encore une fois, plus je travaille à faire de la peinture, plus je vais trouver le réel, plus je vais habiter bien le monde. Parce que, l'écorce, je connais. C'est-à-dire que c'est mon copain. Là, par exemple, j'ai fait beaucoup de feuillages. Bon, alors, d'une part, mon amoureuse me disait arrête les feuillages parce que ça prend trop de temps. J'ai interdiction d'arbres pendant au moins un an. Mais c'était fascinant l'explosion que ça peut être un feu d'artifice, quoi. Et alors, c'est un arbre, c'est vraiment rien du tout. Mais quand on se concentre dessus, c'est vraiment un feu d'artifice. C'est incroyablement vivant, quoi. Et donc, en plus, je retrouvais des histoires de peinture, de Fragonard à Matisse, un espèce de vitalisme comme ça, qui est très beau, quoi.
Mais alors là, j'en reviens à votre question qui était tout à l'heure au regard de la catastrophe écologique. Mmh. Est-ce que c'est encore nécessaire ou pourquoi est-ce nécessaire de faire de la peinture? Et là, moi, je déplace la question à l'idée de l'étonnement du réel. C'est que, en fait, ce feu d'artifice, il existe sans la peinture.
Ouais.
Si on est disposé à être étonné du réel devant un arbre, par exemple, l'émotion, elle est puissante juste à le regarder. Dans ce cas, qu'est-ce qui fait que vous, ça vous semble nécessaire de peindre cet arbre, en plus, entre guillemets?
Bah parce que moi, j'ai appris à aimer le réel par Chardin, par Fragonard. C'est-à-dire que la peinture, elle nourrit notre regard. Je trouve ça super émouvant. Enfin, je connais pas mal de gens de cinéma. Les chefs opérateurs, ils ne parlent que de peinture. Et je trouve ça super... La peinture, c'est un peu un lieu en amont de toutes les images, quoi. C'est un vieux truc, c'est de la continuité, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire en peinture, il y a énormément de recherches à faire sur notre rapport au réel. Par exemple, si je donnais un exemple que je trouve hyper intéressant sur aujourd'hui, notre rapport aux images où on pense que les images n'ont aucune force, alors qu'évidemment, elles en ont énormément. Enfin, je trouve que c'est pas pensé, quoi. Par exemple, je comprends pas que les magazines féminins, toutes les images soient retouchées, que ça soit des corps pompiers.
Mais c'est hyper pensé, au contraire.
Oui, non, mais c'est pensé en amont. Mais ce que je veux dire, c'est que personne se dit quel scandale que c'est en post-MeToo d'avoir des magazines comme ça.
Il y a 2-3 personnes qui se le disent, mais il y a une bonne force de résistance commerciale.
Oui, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut taper là, parce que c'est eux les méchants et c'est eux qui font que le monde va se détruire. Donc, clairement, quand moi j'ai regardé la télé un petit peu, ce que je regarde pas souvent, il y a des pubs pour la mode et pour les voitures. Donc voilà, c'est les deux méchants de la France. Voilà.
Et alors, si on en revient à la peinture, ça peut être un endroit pour taper dessus, c'est-à-dire ça peut être un endroit pour quoi regarder autre chose.
Ben voilà, oui, c'est un contre-champ. Pour moi, c'est un contre-champ, c'est-à-dire j'essaie de faire des images où je me dis, bon bah. Là, c'est évidemment que c'est un peu bizarre parce que c'est tout petit. Mais je pense que c'est des images où.
Ah bah, on peut pas partir de ce présupposé-là.
J'y arrive.
Sinon, c'est pas possible.
Non, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est que le rapport que j'ai eu avec les images est tel que ça a nourri ma vie incroyablement. Bon, bah, j'espère nourrir la vie de d'autres gens comme de cette manière-là. Et je pense, oui, qu'il y a une force, par exemple, de la carte postale dans la chambre d'adolescent, quoi. Voilà, une image comme ça, on ne sait pas pourquoi on la met, elle nous travaille, on ne sait pas pourquoi. Oui, je crois à cette force-là.
Et ça, y compris quand c'est une photo, cette carte postale.
Oui, bien sûr. Après, là, par exemple, la photographie, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a 200 ans et qu'aujourd'hui, elle bute aussi sur une aporie qui est le fait qu'on manipule tellement la photographie que, pour moi, c'est presque de la peinture. C'est-à-dire, les photographes qui m'intéressent, comme Jeff Hall et Gregory Crutzen, c'est des photographes plasticiens qui, à mon avis, aurait dû faire de la peinture.
Bon, bah écoutez, Gérard Fromanger, qui a beaucoup utilisé lui aussi la photographie.
D'abord, je me fais plaisir. Bah, ça compte énormément. Si j'ai pas de plaisir à le faire, personne n'en aura à le regarder. C'est un plaisir. Je sais pas comment, quoi donner comme exemple. Non, en tout cas, c'est dans le noir. La toile est blanche. C'est dans le noir, je projette, il y a une image. Puis quand je l'enlève, il reste la peinture. En faisant cette peinture, j'essaye de déchiffrer cette image. De la lire, de la déchiffrer, pour ensuite le regardeur, dont je suis le premier regardeur, quand je rallume la lumière et que j'éteins la projection, à chaque fois pour moi c'est stupéfiant. C'est étonnant parce que j'étais dans le noir. Heureusement je connais toutes les couleurs dans ma tête. C'est une jouissance que de le faire. Et c'est un... c'est une stupéfaction, c'est pas un orgasme, c'est une stupéfaction de voir le résultat. Ça dure pas longtemps, alors faut en faire un autre. Ça dure, la stupéfaction dure une demi-heure, une heure, et trois jours environ. Au bout de trois jours, ça y est, il est là, quoi. Il est là, bon. Alors après, c'est la vie des autres qui compte. Mais le premier regardeur, c'est moi. Je considère la photographie comme une bouteille. Comme la bouteille ou les pommes de Cézanne. Avec un chiffon, un apron chez lui là. Alors, il a son modèle. Ou la Sainte Victoire. La photo pour moi projetée, c'est pareil. C'est comme un modèle. Froid, grâce auquel je vais lire le monde. C'est un morceau de... Comment on pourrait dire ça? C'est le réel. Oui et non, c'est-à-dire, je vais dynamiser cette image. Je vais donner, oui, c'est du réel, mais du réel qui manque de sens, qui manque moi. Il manque ma vitalité, mon dynamisme, ma chaleur que je peux avoir. Il manque ce que je ne connais pas de moi. Il manque à cette image, elle manque.
C'est tellement beau la manière dont il décline ce manque à la fin. Gérard Fromanger, c'était une masterclass en 2017 diffusée sur France Culture l'été. Il manque moi à cette image, il manque cette vitalité. Il finit par dire elle manque. En transformant finalement, qu'est-ce qui manque à la fin? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est autre chose qui manque là-dedans? Est-ce que c'est la photo initiale qu'il projetait dans le noir? Est-ce que c'est encore autre chose qui manquait à Gérard Fromanger? Quel rapport vous avez avec la photographie Thomas Léville? La nuit 10 comme un modèle froid.
Pour moi, la photographie, c'est du dessin. C'est-à-dire... Et après, ce qui m'intéresse dans ce qu'il raconte, c'est le rap. Quand il dit il manque moi, c'est une question que je.
Il manquait lui jusqu'à la peinture.
Ah oui, bien sûr. Et c'est une question que là je me pose, qui m'intéresse vraiment, que j'ai pas du tout réglé encore. Hein, mais c'est la question de l'appropriation par l'artiste du monde. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé à être classique.
C'est-à-dire?
À peut-être laisser le monde me dépasser et pas forcément exprimer mon moi intérieur, ma personne. Et donc là, je serais peut-être en désaccord avec lui, dans la mesure où j'ai l'impression que, par exemple, tout le modernisme qui s'associe à une vision de l'histoire hegelienne, on y retourne, ça serait une espèce de « c'est moi que v'là », donc tous les ismes du XXe siècle, « c'est moi que v'là », »,« c'est moi qui vais tout révolutionner », »,« c'est moi qui ai inventé tout ». Et ça, justement, c'est une brutalité par rapport à la représentation qui m'intéresse de moins en moins. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est d'essayer de faire des œuvres qui se un peu désanthropocentrisées, c'est-à-dire que d'essayer de voir le pas de côté, quoi. Donc ça, c'est bon, c'est des lectures comme Emmanuel Coccia ou des choses comme ça, mais c'est d'essayer de justement retrouver des images qui ne mettent pas l'homme au centre, qui ne mettent pas l'auteur au centre, voilà. Essayer de s'abandonner un peu au monde plus que de le maîtriser, quoi. Voilà, d'en faire partie.
Ouais. Mais
Et donc la photographie dans ce cadre-là...
Vous allez peindre quand même.
Oui, mais de manière... évidemment. Mais par exemple, je pense à un peintre que j'adore, qui est Gustave Courbet. Quand il peint la Lalie du Cerf, un tableau qui fait 5 mètres sur 6, donc c'est une grande forêt avec un cerf en rut. Je trouve ça dingue.
Mais vous voulez dire que vous pensez que Courbet, il a suffisamment fait le vide en lui pour que le sujet, la peinture, le cerf, la forêt prennent le pas, ouais, le traversent et prennent le pas.
Le monde a dépassé, quoi. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'à la fin de sa vie, on le retrouvait tout nu, en train de se frotter aux arbres et d'aller se baigner dans le lac.
Oui, mais justement, Thomas Lévillaine, en même temps, ok, il est dépassé par le réel et peut-être ça, la toile en témoigne. N'empêche que ce qui n'est pas réductible, c'est qu'il a décidé, quand même.
Oui, bien sûr, mais ça.
Il y a Courbet qui décide que c'est ça qu'il va peindre. Et que c'est peut-être le reste de ce que décrivait Gérard Fromanger, à savoir, il manque moi. Peut-être il y a ça. Moi, je ne suis pas forcément pour qu'on garde forcément l'auteur.
Hein. Oui.
Mais je veux dire, comment on l'efface complètement?
Bah, c'est une question. Encore une fois, je n'ai pas dit que j'avais la solution. Par exemple, le mot créateur, moi, ça m'a toujours choqué parce que je trouve que c'est complètement catholique. Et,
ah oui. Et, créateur n'est pas exactement sur le même plan qu'auteur, déjà.
Notre travail, tu vois, par exemple, créateur pour un peintre, ça veut rien dire. On est créateur de richesse, peut-être, mais enfin, en gros, on passe d'une matière inerte à un tableau, mais on n'a rien créé dans l'histoire. Quoi.
Non, mais l'autorité, par contre, ça se déplace un peu. C'est pas exactement. Création et autorité, c'est pas pareil.
Ouais, c'est vrai.
Vous restez l'auteur, dernière nouvelle, de vos dessins et vos peintures.
Oui, ben, non, mais bien sûr. Mais moi, je me vois comme un flux, en fait. C'est-à-dire, je me vois comme une machine à. Enfin, je crois ne maîtriser à peu près rien du tout. Sinon, je serais un super meilleur artiste. Et je me vois comme quelqu'un qui mélange tout. Par exemple, là, cette année, j'ai énormément lu sur les histoires d'Anthropocène et tout ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est-à-dire, je sais que ça va me nourrir. Je sais que là, par exemple, c'est passé dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai des émotions par rapport à ça. Et je ne sais pas du tout si ça va m'apporter quelque chose, me rendre complètement suicidaire. Voilà.
Mais c'est passé par votre corps.
Ouais, mais ça passe par mon corps, mais comme un truc qu'on maîtrise pas du tout. C'est-à-dire, j'ai pas.
Oui, mais encore est-il. Enfin, ça voudrait dire que.
Enfin, en tout cas, moi, je crois qu'on maîtrise pas grand-chose, quoi.
Oui, mais ça fait pas de nous des non-auteurs pour autant.
Ah, bien sûr.
Oui, voilà,
d'ailleurs, je pense que les bons artistes, généralement, c'est des gens qui maîtrisent vraiment pas grand-chose et qui se laissent plus aller. C'est-à-dire, ils maîtrisent un peu, ils regardent les choses, mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord de l'énergie, c'est d'abord un flux, quoi.
Voilà. Parce que quand Gérard Fromanger dit il manquait moi. On n'est pas certain qu'ils disent « il fallait que je maîtrise ce que je mettais de moi dans la peinture pour qu'il ne manque plus moi ». Peut-être que, tout simplement, le flux de la peinture le traversant fait qu'il y a du « lui » dans la peinture qui est là, sans nécessairement qu'il l'ait maîtrisé.
Oui, après, il a un style très très reconnaissable, et très, c'est-à-dire il met des couleurs très pop, par exemple, ce qu'il dit sur la photographie, ça c'est intéressant, c'est que je trouve que c'est vrai qu'une bonne photo, ça donne pas une bonne peinture. C'est-à-dire une photo qui est un peu nourrie, rangée, alors qu'une photo un peu naze, un peu bête, et ben ça, pour le coup, c'est vachement intéressant pour la peinture. Donc, par exemple, ça m'est arrivé de faire poser des gens pour des commandes ou des choses comme ça. Ils sont toujours surpris que ça mette exactement 3 minutes et demie à faire la photo parce que je leur demande juste d'exister, quoi. Donc, je leur demande de juste être eux. Donc, il y a 2 minutes 50 où ils sont crispés, puis d'un coup, je fais une blague et tout ça, ils rigolent, hop, ils sont détendus, hop, je fais la photo, c'est fini, quoi.
On va pas avoir beaucoup de temps pour parler de cet autre travail que vous montrez, Thomas Lévillaine, dans l'exposition La fin des forêts, mais quand même, il faut qu'on en parle, qui est une vue de l'entrée d'Auschwitz avec deux personnes, une qui est encore à l'extérieur et l'autre qui est à l'intérieur et qui se prennent, je crois, mutuellement en photo. Peut-être ce temps qui nous reste, on le consacre à parler de ce travail-là et de la manière dont vous le mettez en regard avec le reste.
Oui, alors c'est un tableau un peu que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Déjà, j'avais envie de représenter Auschwitz, c'est-à-dire pas comme je l'avais dans ma tête, pas comme je l'avais dans mes images mentales du cinéma et tout ça, de manière très grandiloquente. J'avais envie de le montrer très plat, très bas, très minimum, comme c'est là-bas. C'est-à-dire que le Arbeitmannsfrei, qu'on a une vision très très grande, enfin très spectaculaire du truc, c'est tout petit, c'est tout misérable. C'est tout chiche, il y a pas d'argent mis là-dedans, il y a pas beaucoup de barbelés, il y a pas beaucoup de miradors, et c'était une chose que je trouvais absolument passionnant de voir la différence que j'avais entre mon fantasme et la réalité, qui est beaucoup plus terrifiante parce que évidemment ils ont pas mis d'argent là-dedans, donc. Et après c'est de le mettre en regard avec d'autres tableaux sur le réchauffement climatique. Ce qui m'intéressait, c'était encore une fois la question du tragique. C'est-à-dire qu'on a bien rangé notre tragédie dans ce lieu-là, qui est un lieu sacré. On l'a bien bien rangé. On a bien dit que c'était les méchants, les nazis, et que d'un coup le mal on le voyait pas. Or le mal, je pense qu'il est partout. je vous parlais de lardon tout à l'heure. Quand j'ai des envies de lardon, je vais au Monoprix et je vois qu'il y a un lardon sans nitrite et un lardon 25% de matière grasse en moins. Mais en fait, lequel n'est pas un poison, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est du mal, en fait. Et la question, c'est de s'organiser pour mieux vivre. Enfin voilà. Et je pense que la manière de, enfin, en gros, toutes ces histoires de réchauffement climatique et tout ça, je pense que une des solutions, c'est pas de culpabiliser les gens, c'est de responsabiliser les gens. Le problème, c'est qu'il faut du temps. Faut mettre du temps pour être responsable. C'est-à-dire, il faut avoir des informations claires, il faut être précis et tout ça.
Mais c'est quoi le rapport avec Auschwitz, du coup, la représentation?
C'est le rapport tragique. Voilà. C'est-à-dire que moi, je nous ai mis, Arbeit macht frei, ça pourrait être aussi une phrase macronienne, quoi. Et dans le tableau, on voit pas tout de suite que c'est le camp de concentration. On voit d'abord un très bel arbre, très vivant, très très coloré. Il fait beau. C'est pas une image du mal. On pourrait croire que c'est Venise. Enfin, j'espère qu'on pourrait croire que c'est Venise. Puis après, on s'en rend compte. Et ça aussi, je reviens sur mon truc, mais ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est l'indifférence du monde. C'est-à-dire que l'arbre, il s'en fout. le bois s'en fout. L'herbe s'en fout. L'herbe, elle va pousser quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est la condition humaine, hein. Mais on pourrait même dire que la végétation est peut-être plus florissante dans ce coin-là parce qu'évidemment elle était bien nourrie. Et donc voilà, c'est une espèce de, il y a pas de morale, il y a pas de sens, mais voilà. Et après, dans ce rapport-là, je pense que je m'appelle Lévi, et moi, j'avais pas d'histoire, en fait, de mon côté de mon grand-père, parce que, il y a pas de famille, en fait. Donc, j'ai pas de culture juive, j'ai la culture Shoah, quoi. Et donc, ça m'intéressait aussi ma culture juive, c'est la culture Shoah, je sais absolument rien d'autre que ça. Et donc, ça peut arriver, que des choses s'effondrent et qu'elles aient plus de traces.
Merci beaucoup, Thomas Lévi-Lane. La fin des forêts, c'est le nom de cette exposition qu'on peut voir à la collection Lambert en Avignon et qui montre une partie de ce travail fait à la Villa Médici pour vous et dans les autres antennes de la Villa Médici dans le monde, c'est-à-dire à Kyoto et...
Alors, c'est pas les antennes de la Villa Médici, c'est Villa Kujuyama et Casa de Velasquez. Voilà,
ouais, c'est deux résidences. C'est pas comme ça qu'on dit ça.
Non, mais c'est pas grave. Ils vont être vexés après.
Et je voudrais pas qu'ils le soient. C'était Jean-Michel Bernot ce soir et à la réalisation Anna Holweck. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Lucie Riandet. Voilà, qu'on applaudit, vous pouvez le faire plus fort. Hein. Très belle soirée sur France Culture, 22h le journal. Ça fait plaisir.